soir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de l'organisation à Kinshasa du deuxième forum mondial des femmes de l'espace francophone. À l'issue de ces travaux, les femmes de l'espace francophone ont prôné la promotion des droits de la femme et se sont aussi pour cela engagées à saisir les décideurs en vue de l'atteinte de leurs objectifs. Comme deuxième sujet, nous parlerons de la SENCO qui s'oppose à la feuille de route présentée par la CENI pour le cycle électoral 2013-2016. Elle exige ainsi la tenue des élections provinciales au suffrage direct au premier trimestre 2015. Dans un communiqué rendu public lundi 3 mars dernier à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo se dit préoccupée par le dépassement du mandat des députés provinciaux et des sénateurs ainsi que par le dysfonctionnement institutionnel et la crise de légitimité observée dans les entités territoriales et urbaines. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Joël Kadindanga, il est éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadindanga.
Bonsoir confrère, bonsoir auditeur de Radio Okapi.
Nous sommes également avec John Gomboy, il est directeur des informations à la télévision Antenne A, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Gomboy.
Bonsoir Samuel Kachak, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi, spécialement ceux qui nous écoutent à Lingwala, à Kinshasa et à Kananga, au Kassai occidental.
Dona Moussema, lui, il est directeur général de la radio communautaire Iriba FM à Bukavu et il est aussi secrétaire provincial de l'UNPC Sud-Kivu. Bonsoir Dona Moussema.
Bonsoir Samuel, bonsoir aussi aux confrères Joël et John et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. L'organisation à Kinshasa du deuxième forum des femmes de l'espace francophone et la position de la SENCO qui s'oppose à la feuille de route présentée par la CENI pour le cycle électoral 2013-2016 figurent parmi les sujets qui ont retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la clôture du deuxième forum mondial des femmes francophones. Forum des As note que se réjouissant de la fin heureuse de la deuxième édition du forum des femmes francophones à Kinshasa, Inagosi jette des fleurs à Kabila. Mais la référence plus aborde les retombées de ce forum en annonçant la création d'un fonds pour la scolarisation de la jeune fille. Ce que corrobore le quotidien Le Phare sous un autre titre analogue. Par ailleurs, Forum des As relève que Mary Robinson met l'accent sur le rôle central des femmes dans la résolution des conflits. Chapitre élection, la réaction des évêques catholiques au mode des scrutins proposé par la CENI défraye la chronique. Et dans une déclaration rendue publique lundi à Kinshasa à propos du scrutin indirect, rapporte le journal Forum des As, les évêques catholiques disent non à l'abbé Malumalu. Pour ces princes de l'Église, les élections au niveau local, municipal et urbain doivent plutôt se dérouler au suffrage direct. Sous un autre bout de la lorgnette, le quotidien La Prospérité souligne toujours au sujet des élections provinciales au suffrage direct au premier trimestre 2015 que les évêques exigent du gouvernement un budget conséquent. Pour garantir la souveraineté de la RDC avant de compter sur l'appui financier de ses partenaires traditionnels. Et c'est le schéma des évêques, estime le journal Le Potentiel.
Merci Kéline Kouté. Joël Kadindanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui part à Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par le rapport du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme faisant état des 173 cas de violation des droits de l'homme enregistrés en janvier dernier en RDC. Selon le directeur du bureau conjoint de droits de l'homme, les types de violations les plus rapportés sont les atteintes au droit à l'intégrité physique, les violences sexuelles. Ce rapport indexe aussi les militaires et les policiers ainsi que les miliciens des grosses armées actives en RDC. Un petit commentaire?
Oui, très cher confrère, vous savez, cela vient un peu rappeler la consécration du régime d'impunité dans notre pays où ceux qui y ont violé les droits de l'homme ne sont jamais poursuivis. Pouvez-vous vous rendre compte que quelqu'un, par exemple, un ancien député qui avait traversé la route pour Kampala et il entend que son chef de l'État a promulgué la loi sur l'amnistie, il rentre, il s'agit de l'honorable Choko Tshembo, et on le happe pour un cachot sans le savoir. Je crois crois qu'il y a lieu que l'on puisse poursuivre ceux qui violent les droits de l'homme afin d'éradiquer le régime d'impunité instauré dans notre pays.
Je te garde encore dans cette émission, John Gomboa. Je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenna émettant depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine est aussi marquée par le renforcement par le maire de Beni des mesures sécuritaires autour de cette ville après les attaques à la grenade d'un convoi des casques bleus de la MONUSCO et l'explosion des obus d'origine inconnue le week-end dernier. Un petit commentaire.
Oui, je pense que c'est des mesures qui s'imposent, mais qui posent aussi la question de la capacité de nos forces armées, de l'armée, en fait, des FARDC, à pouvoir assurer la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a encore beaucoup trop de brèches. Et au niveau des frontières et dans la plupart des entités, surtout au niveau de l'Est du pays.
Je reviens à vous tout à l'heure, Joël Kadendanga. Un autre sujet d'actualité, c'est le retour un peu mouvementé à Kinshasa du président de l'UNC, Vital Kamerhe. Comment est-ce que vous avez analysé cette information?
Je réalise qu'il y a un manque de professionnalisme dans l'encadrement des activités politiques dans notre pays par peut-être le ministère de l'Intérieur que veut faire de Kamerhe un héros en cherchant à le bastonner, à restreindre ses mouvements de liberté. Je crois qu'on est en train de le martyriser, de le rendre martyr. Et peut-être pour rien ou pour des objectifs bien inavoués, je crois qu'il y a lieu que l'on respecte la liberté des mouvements de tout un chacun sur le sol congolais, politicien soit-il.
John Gomboa, un petit commentaire sur le retour de Vital Kamerhe Kinshasa.
Oui, comme nous le disions l'autre fois ici sur ce plateau, chaque fois que Vital Kamerhe sera victimisé par les forces de l'ordre ou de la police, ça sera une victoire du côté des Kamerhe. Et voilà.
Dona Moussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Iriba FM à Bukavu et secrétaire provincial de l'UNPC Sud-Kivu. Quelle est l'actualité qui est à la une aujourd'hui au Sud-Kivu?
Oui, deux actualités au fait font la une ici au Sud-Kivu. Tout d'abord, les organes de presse du Sud-Kivu sont débordés par les taxes de l'État. Ils crient au ras-le-bol et sont décidés de fermer si l'ordre ne revient pas dans le secteur de la taxation et des régies financières. Ça fait au fait plus d'un mois maintenant que tous les médias regroupés au sein de l'UNPC, l'Union Nationale de la Presse Congolaise, section du Sud-Kivu, avec l'accord de tous les directeurs des entreprises de presse, ont rendu publique une déclaration, laquelle déclaration suspend toutes les taxes jusqu'à nouvel ordre. En outre, les médias fustigent le fait qu'ils sont victimes de la part de l'État congolais de l'illégalité de certaines taxes, de la surtaxation même, voire le flou dans la nomenclature, et surtout, les médias exigent une contrepartie de toutes les taxes qu'ils payent, notamment des subventions auxquelles les médias pensent qu'ils ont droit. Voilà un peu le débat qui est là pour le moment et qui fait écho quand même en province, mais qui est loin pour l'instant de tout dénouement jusqu'à présent, car les médias n'ont pas encore reçu un quelconque feedback escompté de la part de l'autorité et fiscale. Alors, l'autre actualité pour terminer, c'est le bulletin surprise numéro 031 de l'organisation SAGESEC, qui est la synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique électorale et la promotion des leadership cohésifs au Sud-Kivu. Alors, ça parle d'une corruption à ciel ouvert qui s'observerait à tous les postes de police de circulation routière ici au Sud-Kivu. Les agents de la police, d'après toujours les amis de la société civile, se font corrompre sur la route au vu et au su de tout le monde sans froid aux yeux, et moyennant 500 francs congolais, qui sont contraints de verser à leur hiérarchie, soit par jour, soit par semaine, avec évidemment un montant bien fixé. Tout agent de la PCR qui n'y arrive pas est sévèrement sanctionné, faire la garde par exemple pendant plusieurs semaines, soit cloué au cachot, ou soit viré de la police de circulation routière. Certains arrivent même à vendre le bien de leur maison pour compléter le montant du rapport qu'il faut donner au chef. Il s'agit là aussi d'une anomalie qui alimente la conversation ici dans les rues de Bukavu. Mais heureusement, le nouveau commandant de la police du Sud-Kivu, qui vient d'arriver à Bukavu, le général Jean Bosco Kalinga, est déjà saisi de ce problème et a promis de remettre de l'ordre dans sa... Mais attendons voir, comme tu dirais, wait and see.
Merci, Donna Moussema. Je vous garde encore dans cette émission. Nous passons directement à notre premier thème de ce soir. Les femmes de l'espace francophone prônent pour la promotion des droits de la femme. Elles s'engagent pour cela à saisir les décideurs en vue de l'atteinte de leurs objectifs. Ce vœu des femmes francophones est contenu dans les résolutions rendues publiques mardi dernier. C'était lors de la cérémonie de clôture du deuxième forum mondial des femmes francophones. En quoi les organisatrices de ce forum, une fois la femme mise dans des bonnes conditions de vie et de travail, elle servira réellement de moteur de développement. C'est un reportage de Mimi Ngumba Mulongo.
Les femmes ont adressé trois séries de recommandations. Aux chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, elles demandent l'intégration de l'égalité homme-femme, à l'organisation de la francophonie, d'assurer la pérennisation et le suivi du forum, et à la société civile, de travailler en réseau pour accompagner les gouvernements dans leur politique. Résolution applaudie par les organisatrices. Ces dernières ont promis de s'impliquer pour leur application. Yamina Benguigui, ministre française déléguée à la francophonie.
Chacune de vos recommandations est une fêlure que nous faisons dans le plafond de verre. Notre stratégie, c'est la stratégie de la brèche. Et partout où nous pourrons nous infiltrer pour faire avancer les droits des femmes, nous le ferons.
De son côté, la ministre congolaise du genre s'est plutôt félicitée du bénéfice tiré par les femmes congolaises, Geneviève Inagosi.
Intensifier les échanges entre les participantes sur les expériences et les bonnes pratiques en matière de promotion du rôle des femmes dans les activités économiques des pays de l'espace francophone.
Notez enfin que les différentes résolutions seront transmises au 15e sommet de la francophonie qui aura lieu en novembre prochain à Dakar au Sénégal.
Joël Kazendanga, quelle lecture vous avez fait de ce forum des femmes de l'espace francophone tenu à Kinshasa?
Oui, d'abord une activité qui est la bienvenue dans en République démocratique du Congo qui est en train de se relancer sur la scène internationale où elle était il y a peu effacée. Et je crois que depuis un temps, on a SADC, c'est comme ça. Et là, c'est la francophonie. D'abord, le 14e sommet et maintenant le deuxième forum de femmes. Je crois qu'il y a lieu de féliciter la diplomatie congolaise. Mais comme je l'avais dit la dernière fois sur ces antennes, il faudrait que nous posions la question sur l'apport de toutes ces organisations à Kinshasa sur le quotidien de la population congolaise. Et cet apport devrait se concrétiser dans ce que cela peut apporter à la femme. Je suis bien d'accord avec toutes les résolutions et toutes les recommandations issues de ces forums, mais je crois que la responsabilité revient aux leaders féminins, aux leaders de femmes qui, lorsqu'elles passent de l'autre côté, comme Madame Benguini était en train de le dire tantôt, lorsqu'elles sont infiltrées dans la gestion des hommes, elles deviennent elles-mêmes les ennemies premières des autres femmes restées dans le carcan. Voyez comment se comporte la plupart de femmes responsables, ministres, ADG, ceci et cela, ADF, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que lorsqu'elles ont déjà traversé de l'autre côté de la rive, elles considèrent les autres femmes comme de laisser aller. Elles ne les côtoient plus, elles ne prennent pas leur doléance pour les porter vers la hauteur. Je crois que le combat de la femme après s'être infiltré parce que le combat de l'égalité entre hommes et femmes a été résolu.
Donc c'est la femme qui écrase les autres femmes.
Les autres femmes. Je crois qu'il y a lieu, au moment où nous sommes arrivés, que la femme qui a traversé la rive puisse comprendre que je suis la représentante d'une multitude et qu'en conséquence, elle joue le rôle de cette multitude-là. Elle ne peut pas elle-même servir que les autres femmes restent comme objet de publicité. Vous allez constater la plupart des publicités, qu'il s'agisse des sociétés brassicoles, des sociétés de télécommunications, on utilise l'image de la femme tout simplement pour séduire, tout simplement comme un objet de commercialisation de produits ainsi vendus. Vous allez voir même dans les services de marketing, on utilise les femmes et on leur impose une tenue dans le sens, de vendre les produits. Je voudrais que les femmes qui ont déjà traversé puissent comprendre qu'il est temps que le droit tant recherché soit orienté, n'est-ce pas, dans ce forum qui soit consacré par la Constitution, ainsi de suite.
John Gomboa, qu'est-ce que ce forum des femmes francophones a représenté pour vous?
Il y a deux choses. Premièrement, la gestion des sommets en République démocratique du Congo. Et deuxièmement, la réalité de la question de la femme chez nous. La gestion des sommets, on l'a constaté, il y en a de plus en plus ici au pays. Sauf que il est difficile aujourd'hui de pouvoir capitaliser ces sommets. Nous avons les sommets de la francophonie, c'est tenu il y a un peu plus d'une année. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ces forums des femmes francophones? Rien de palpable. Il faut que le Congo puisse capitaliser les sommets. Parce que en réalité, ces forums-là, là je rentre maintenant dans le deuxième aspect, c'est une activité, j'allais dire, de marketing, c'est une activité formelle. La question de la femme demeure entière dans notre pays ici. Au-delà des complaintes, au-delà des déclarations et des beaux discours, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui ait changé. Et du point de vue de la loi aussi, les lois promises pour pouvoir garantir la parité ou l'accès des femmes aux mêmes situations que les hommes, eh bien, jusque-là, c'est encore lettre morte. Donc, je pense que, d'une part, nous devons savoir gérer les sommets, comme ils viennent chez nous, les utiliser à bon escient pour pouvoir imposer notre leadership. On l'a pas bien fait pour ce qui concerne la francophonie. Donc, ces sommets-là, qui est plutôt le forum, n'a été, à mon sens, disons, qu'une activité marginale. Alors, pour la question de
donc,
la femme...
En vous entendant parler, donc, c'était une rencontre de trop?
Non, c'est une rencontre formelle. Parce que au forum, c'est un forum qui s'est tenu sur deux jours, en réalité sur deux journées. Et on n'a pas eu le temps d'aller avec les choses en profondeur, comme d'habitude dans les forums. On amène des décisions déjà toutes préparées et toutes faites, et vous allez juste vous contenter de les rendre telles quelles. Et donc, ces forums s'est retrouvé au croisement des deux activités principales. Vous avez la francophonie et vous avez les femmes. Donc j'ai dit la francophonie, la RDC étant jusque-là, elle est en train de céder son mandat pour la présidence de la francophonie. Eh bien, la RDC étant à la tête de la francophonie n'a pas su capitaliser comme il fallait cette présidence jusqu'à ces sommets que je qualifie d'activité formelle tout simplement. Et en même temps, je reviens à l'autre activité croisée, c'est la situation de la femme en RDC. Elle n'a pas beaucoup évolué et les femmes doivent comprendre que elles n'ont pas à attendre énormément des hommes. De par nature, il faut qu'elle s'élance et qu'elle arrête cette activité, j'allais dire, cette sorte de jérémiade. On a beaucoup entendu parler de ça. Il est grand temps qu'elle s'élance dans l'activité pratique et concrète pour pouvoir revendiquer réellement leur dû.
Dona Moussema, lors de ses travaux, la ministre congolaise du genre a brossé un tableau sombre de la situation de la femme. Quelles sont, selon vous, les raisons qui font que la femme congolaise connaisse cette situation? Dona Moussema? Apparemment, nous avons un petit problème avec la ligne de notre confrère Dona Moussema. Le temps que la réalisation puisse essayer de nous la retrouver, Joël Kanendanga, la même question que je posais à Dona Moussema. Quelles sont les raisons qui font que la situation de la femme reste toujours sombre aujourd'hui?
Oui, la situation de la femme reste sombre, c'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique engagée dans notre pays pour protéger les droits de la femme. Et il y a une sorte de la consécration, je le disais au début ici, de l'impunité dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait de tous les militaires, des groupes armés, tout comme des FARDC ou des policiers qui ont violé les femmes? Ce que je voudrais encore ajouter, c'est que les sommets, le deuxième forum des femmes francophones en RDC devrait interpeller nos autorités pour que l'on puisse circonscrire le cas particulier de la femme, parce que la RDC est devenue comme la capitale mondiale du viol. Les femmes sont violentées, elles sont tuées, et elles sont non seulement qu'après l'avoir violée, on la tue, J'ai vu la dernière fois, ce n'est même pas par plaisir qu'on le fait, parce que quand quelqu'un viole une dame de plus de 70 ans, et après l'avoir violée, lui introduit des instruments beaucoup néfastes dans son corps intime, et après l'a tuée, qu'est-ce qu'on gagne dans une situation comme cela? Je crois qu'il y a lieu que notre gouvernement puisse s'engager par une volonté politique bien engagée, si vous pouvez me passer la tautologie, de telle sorte qu'on sorte la femme de la violation de ses droits. Et ce n'est qu'à cette condition de la volonté politique. Je veux dire par la volonté politique, dans notre pays, vous allez voir que lorsque le gouvernement s'engage, par exemple en ce qui concerne l'affaire Kuluna, c'est terminé à Kinshasa. Vous allez voir, avant que le roi de Belge n'arrive, les grandes routes ici ont été réhabilitées dans moins de temps possible. Tout ce qui nous manque chez nous pour le développement, pour le ceci et cela, c'est uniquement le manque de la volonté politique. Dès que les politiques s'engagent pour le relèvement des droits des femmes, pour s'engager dans la lutte contre l'impunité, surtout en ce qui concerne ceux qui violent les femmes, je crois que nous allons relever le niveau de nos femmes.
Dona Moussema, vous êtes maintenant en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Ok, tout à l'heure nous vous avions perdu. Quelle analyse vous faites de la tenue de ce forum des femmes francophones organisé à Kinshasa?
Merci beaucoup. Je reste dans la logique de mon intervention de vendredi dernier, quand j'étais en train de parler des forums, et je parlais même du commissaire. C'est-à-dire, c'est bien tous ces forums, tous ces ateliers, tous ces sommets, c'est bien sur le plan diplomatique au niveau du pays qu'on sente que non, le Congo rentre petit à petit dans les concerts des nations et que ça donne une image positive pour la diplomatie congolaise. Mais la question essentielle, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est de savoir qu'est-ce que nous, comme Congolais, nous faisons de tous ces forums, de tous ces sommets, de toutes ces grandes réunions pour améliorer le vécu quotidien du Congolais et de la femme en particulier, parce que nous parlons pour le cas d'espèce de la femme. Je pense que c'est ça un peu la grande question. Eh bien, mais alors, j'ai suivi qu'il y a eu des recommandations, mais je rappelle que les recommandations ne sont pas des réalisations, moins encore des acquis. Alors, je pense que tant que les recommandations ne sont pas coulées sous forme de textes légaux ou sous forme de lois et autres, tout et tout, la situation de la femme restera toujours inchangée. Et ça, c'est très déplorable. Je pense plutôt que, après l'obtention des textes légaux, par exemple, si on arrive à cela, il faudrait maintenant l'application. Et c'est comme ça qu'il faut travailler pour vraiment voir la situation de la femme changer. Donc, et ça demande, encore une fois, une forte volonté politique des dirigeants. Après le travail des dirigeants, la sensibilisation peut-être par les partis politiques, par les acteurs de la société civile, par les églises, parce que nous allons parler des églises. Et après, maintenant, ça peut venir la pression populaire, la pression de la population. Et aussi, il faut peut-être se poser la question, quel est le rôle de l'homme dans tout ça? Parce que tant que la femme ne comprendra pas que c'est l'homme qui la bloque, les choses ne vont pas avancer, parce que c'est l'homme qui viole la femme, c'est l'homme qui bloque la femme, c'est l'homme qui dirige, et puis il veut diriger sans la femme. Et c'est tout ça, donc, le débat. Je suis tout à fait un peu pessimiste, en tout cas, avec tous ces forums pour parler des mêmes choses, pour revenir dans le formalisme qui n'est pas concret. Et ça nous laisse un peu sceptiques.
John Gombo, nous savons bien que les femmes sont sous-représentées dans les partis politiques. Et c'est une situation qu'on trouve un peu partout à travers le pays. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène, puisque ces femmes sont apparemment majoritaires? Au lieu d'élire les femmes, ce sont des hommes qui élisent. Mais au niveau des partis politiques, elles sont sous-représentées, même dans l'appareil de la gestion de l'État. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela?
Non, je crois que c'est d'abord une question culturelle chez nous ici, parce que de par nature, la Congolaise ou l'Africaine est en retrait généralement, et surtout dans une activité comme la politique, activité comprise comme essentiellement masculine, vous allez encore retrouver beaucoup moins de femmes. Mais néanmoins, il y a une sensibilisation qui devrait être déjà faite depuis, afin de permettre à l'humanité, au pays, de pouvoir bénéficier de la richesse féminine, parce que je pense quand même que si on laissait la place aux femmes, elles ont des alternatives qui seraient peut-être pertinente. Et alors il revient à l'homme et à la femme de pouvoir sensibiliser, et ça c'est déjà à partir de l'école, pousser ou stimuler les jeunes filles à pouvoir s'engager dans des activités des groupes, à pouvoir prendre les devants, les leaderships, ainsi de suite. Donc pour l'instant, je crois qu'on va être tel que nous sommes là pendant encore une bonne dizaine d'années, où nous n'allons peut-être pas profiter de la richesse que représente la femme, qui est, c'est vrai, majoritaire, mais qui du fait de la culture, du fait, j'allais dire, de l'insuffisance d'engagement, ne sait pas prendre le devant. Et celles qui prennent les devants, justement, ne stimulent pas, ne portent pas les autres. Moi, j'étais très très flatté d'entendre Madame Catherine Samba Panza dire au Palais du Peuple justement qu'elle a veillé à la parité dans la formation de son gouvernement. Donc autant d'hommes pour autant de femmes. Voilà un modèle. Mais les femmes qui accèdent à des postes de décision, qu'est-ce qu'elles font pour promouvoir les autres femmes qui viennent derrière elles? Ça, c'est aussi une autre question. Je pense, nous venons d'entendre tout à l'heure, Joël Cadet l'a dit, parfois, l'ennemi de la femme, c'est généralement la femme aussi. Donc, voilà.
Joël Cadet Ndanga, nous sommes déjà à la fin de notre premier thème. Quel pourrait être l'impact de ce forum sur le rôle de la femme dans la société congolaise? De l'homme s'est montré un peu pessimiste, mais vous, quel pourrait être en fait l'impact de ce forum?
Oui, l'impact de ce forum ne pourra avoir une incidence positive que par l'engagement des autorités congolaises à défendre, à se battre pour le droit de la femme, la promotion de la femme. Et par cet engagement, il faudrait que les femmes politiques, les femmes intellectuelles, les professeurs d'université, le ministre, les femmes journalistes qui ont déjà de la matière puissent sensibiliser leurs consoeurs, leurs sœurs, de telle sorte qu'on s'engage pour la promotion, la protection des droits des femmes. Et que le gouvernement congolais s'engage également dans la lutte contre l'impunité pour tous ces hommes qui se constituent en bourreaux des femmes dans leur maison. Et cela doit commencer essentiellement au niveau de la base, au niveau de vos filles, vous, Samuel Kachak, au niveau des filles de John Gomba, au niveau de mes enfants. Il faudrait que cela commence de la maison en passant par l'école, l'université et dans les hautes instances de responsabilité.
Dona Moutiema, nous terminons ce premier thème avec vous. Joël Kanindanga a déjà commencé à donner quelques éléments d'information. Qu'est-ce que vous pouvez encore compléter par rapport à cela, par rapport à l'impact de ce forum sur le rôle de la femme dans la société congolaise?
Oui, je pense que l'impact est là, d'autant plus qu'on parle encore de la femme. Le simple fait de parler de la femme, c'est déjà une très très bonne chose. Mais comme je le disais, il faut plutôt vraiment pour bien aider la femme, il faut qu'il y ait des textes légaux qui puissent définir clairement ce qu'il faut faire pour la promotion de la femme. En plus de cela, je pense aussi qu'il faudrait que la femme elle-même sache qu'elle a un rôle important à jouer, qu'elle sache qu'elle est une actrice d'État dans tous les combats, dans tous les débats, parce que l'homme ne va pas lui laisser toutes les chances. C'est vraiment un combat qui est ouvert et puis la femme aussi doit le comprendre. On venait de dire tantôt que les femmes souvent se comportent comme des ennemis d'autres femmes. Voilà, donc il faut prêcher l'amour, la promotion, la tolérance entre les femmes, étant donné qu'elles sont, je pense, 56% de la population congolaise. Elles peuvent, je pense, bouger les choses et puis les hommes souvent profitent des faiblesses, des querelles byzantines entre les femmes pour diviser les femmes. Mais si la femme est sensibilisée, si la femme comprend, je pense que les choses peuvent changer et il faut que la femme s'engage pour une société à changement radical. Et tous azimuts sans rappeler que, par exemple, on a vu dans d'autres pays, en Égypte, en Tunisie, en Libye, ce sont les femmes qui ont été les inspiratrices du printemps arabe. Elles ont compris qu'elles avaient un rôle. Et chez nous, même un peu partout dans d'autres pays africains, les femmes ont un rôle à jouer, mais c'est important qu'elles le sachent elles-mêmes.
Nous passons directement à notre deuxième sujet de ce soir. Dans un communiqué rendu public lundi dernier à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo considère que le cycle électoral 2013-2016 constitue un enjeu fondamental et décisif pour la construction d'un Congo démocratique, apaisé et porteur de nouvelles possibilités de développement. La CENCO est préoccupée par le dépassement du mandat des députés provinciaux et des sénateurs, ainsi que par le dysfonctionnement institutionnel et la crise de légitimité observée dans les entités territoriales et urbaines. C'est pourquoi les évêques recommandent l'apurement des arriérés électoraux comme gage de l'assise de la démocratie et du renforcement de la cohésion nationale. Ils demandent la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. On écoute le secrétaire général de la CENCO, l'abbé Léonard Santédi, au micro d'Innocent Olenga.
La première demande, c'est faire vraiment l'apurement de ce qui restait encore des élections de 2011, notamment au niveau des députés provinciaux et des sénateurs. Les évêques sont préoccupés par ce mandat qui perdure. Les évêques disent que l'option ou l'hypothèse des élections au niveau provincial ou même au niveau municipal, au niveau urbain et local au suffrage indirect n'est pas de nature à consolider notre démocratie. On connaît aussi à ce niveau, si on organise des élections au suffrage indirect, le risque de manipulation, de corruption est grand. Alors les évêques demandent que les élections au niveau municipal, urbain, local se fassent par suffrage direct. Ceci, d'abord pour consolider notre démocratie, mais aussi pour permettre à la population, au souverain primaire, d'exercer son droit reconnu par la Constitution. Alors les évêques en appellent à la volonté politique pour la réussite totale de ces élections dont dépend l'avenir de notre pays.
Joël Kadindanga, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Impact News, un hebdomadaire qui paraît à Kinshasa. Comment est-ce que vous analysez cette position exprimée par la CENCO au sujet du cycle électoral 2013-2016?
Oui, je place cette intervention de la CENCO comme une contribution au débat démocratique dans un pays. Parce que la CENI n'est pas l'organe législatif pour couler ses propositions qu'elle-même a appelées hypothèses en forme de loi. Elle a tout simplement fait des suggestions, des propositions qui portent sur les élections municipales et locales au suffrage universel direct qui devraient se passer en 2015, élections au suffrage universel indirect des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des chefs de secteur et des bourgmestres, pas les conseillers des communes, des chefferies et des secteurs. Et cette feuille de route a été élaborée sur base d'un diagnostic établi, d'un état des lieux établi, où il y a deux arriérés électoraux de 2006 et de 2011. À ces arriérés électoraux, il y a les élections locales, municipales, urbaines de 2006 qui n'ont jamais été tenues. Et aujourd'hui, les bourgmestres, les maires, ce sont les chefs de secteur, les chefs de collectivité, ce sont des gens qui travaillent dans une illégitimité totale parce que, étant jusqu'à aujourd'hui nommés par les autorités hiérarchiques, et d'ailleurs ces autorités hiérarchiques se jouent de certains bourgmestres que l'on mute à tout moment, que l'on suspend à tout moment. Donc, il faudrait que l'on puisse achever cet arriéré électoral et aussi l'arriéré électoral de 2011 des députés provinciaux et des élections sénatoriales. C'est en ce sens que la CENI a fait cette proposition. Et lorsque la CENCO intervient, il faudrait que toutes ces propositions, toutes ces suggestions, toute cette contribution nous aide ou aide le Parlement à couler ou à voter des lois qui vont faire en sorte qu'il y ait maintien de la cohésion nationale. Il ne faudrait pas que... c'est là où je salue l'intervention des uns et des autres. Et je suis un peu peiné dans ma propre foi de voir certains pasteurs, de voir certaines personnes réagir. Ça devient une question de querelle entre la CENI et l'Église catholique. Certains pasteurs s'élèvent. Non. Au lieu de condamner l'Église catholique, de condamner les uns et les autres, que ce soit le moment où vous avez aussi votre proposition, vous la donnez, quitte Merci. Aux parlementaires à qui toutes ces propositions seront orientées, de décider en dernière position pour donner une loi électorale qui va garantir la transparence du processus électoral.
Merci, John Gomboa. Les évêques recommandent aussi l'apurement des arriérés électoraux comme gage de l'assise de la démocratie et du renforcement de la cohésion nationale. Ils demandent ainsi la tenue des élections provinciales au premier trimestre 2015. Est-ce que vous pensez vraiment que cela, cette demande est logique en ce moment-ci et cela est faisable?
Bon, logique, oui. Faisable, il faudra voir, parce que à l'orée de 2015, on se projette déjà à la fin d'une phase donc qui se termine à 2016.
Nous sommes déjà en 2014, au mois de mars.
Oui.
Il faudrait commencer peut-être par auditer le fichier électoral.
Oui,
il y a beaucoup d'étapes.
Exactement. C'est nécessaire. C'est nécessaire. J'allais dire c'est légitime. Mais maintenant, il faut voir les conditions d'exécution. Mais la démarche des évêques, moi je la situe plutôt dans l'approche d'une interpellation qui commençait aussi à manquer parce que jusqu'à ce qu'ils parlent, tout le monde avait considéré cela comme une situation de fait, c'est-à-dire on n'évoquait plus la nécessité de pouvoir régler ses arriérés électoraux. Mais ça risque de poser un problème à terme dans le fonctionnement des institutions, en termes de l'égalité des acteurs, en termes de légitimité des acteurs. Donc moi, au-delà peut-être des problèmes logistiques ou des problèmes de matérialisation des revendications ou des évêques, je considère qu'il est très pertinent aujourd'hui que la CENI puisse prendre en compte les propos des évêques et essayer d'y trouver une solution peut-être intermédiaire.
Dona Moussema, dans ses analyses, la CENCO recommande la tenue des élections au suffrage universel direct parce qu'elle estime que c'est de cette manière que le pays peut promouvoir la démocratie à la base en renforçant le contrôle du peuple sur ses représentants. Comment est-ce que vous analysez cela?
D'une façon générale, j'ai apprécié les communiqués de la CENCO parce que je les trouve objectifs et puis opportuns. Même aussi pertinent au vu du contexte électoral dans lequel nous sommes. Seulement, je me posais la question de savoir, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas l'information, la CENCO s'est adressée à qui? Parce que sur le plan juridique, c'est un communiqué comme ça qu'on a rendu public, je ne sais pas s'il est adressé à la CENI ou au Parlement, je ne sais pas vraiment le destinataire. C'est une question qui me laisse un peu perplexe par rapport au contenu du communiqué. Mais d'une façon générale, sur le plan forme et fond du communiqué, je suis tout à fait d'accord de tous les points qui sont soulevés dans ces communiqués parce que il y a des points positifs. D'abord, la CENCO a commencé par relever les points positifs, la tenue des concertations nationales, la mise sur pied d'un comité de suivi et beaucoup de choses qu'il a qualifiées d'avancées. Mais sur le plan maintenant de la tenue des élections, je remarque aussi que la CENCO a raison de soulever des inquiétudes, mais elle se contredit à un niveau quand elle pense qu'il n'est pas possible, il ne serait pas souhaitable que les élections des conseillers urbains, des bourgmestres, maires, chefs des secteurs et tout, puissent avoir lieu au suffrage indirect parce qu'il y aura manipulation, manque de participation directe de la population, le suffrage primaire, tout ça c'est bien beau. Mais au point 9, parce que j'ai eu le temps quand même d'avoir les communiqués, la même CENCO propose qu'il serait avantageux de coupler les élections locales et les provinciales parce qu'il y a un problème de coût, un problème de budget d'argent qui se pose. À ce niveau-là, je trouve quand même une petite contradiction. Mais d'une façon globale, je pense que la...
Dona Moussema, apparemment nous l'avons perdu. Joël Kadine Ndanga, Dona Moussema a commencé déjà à parler du couplage des élections locales et provinciales telles que prônées par la CENCO. Nous nous approchons déjà de la fin de cette émission. Je vais vous demander des réponses brèves. Selon vous, que faire pour harmoniser les divergences de vues au sujet des prochaines élections?
Bon, la divergence de vues ne peut être harmonisée que par les députés à qui toutes les propositions, qu'il s'agisse de l'intervention, de la proposition de la CENI de sa feuille de route ou de l'intervention de la CENCO par son communiqué, Je crois que nos députés, s'ils ont besoin que nous puissions mettre fin au dysfonctionnement institutionnel et à la crise de légitimité dans les entités territoriales locales et urbaines de base, il faudrait que l'on puisse concilier les deux positions, celle de la SENCO, celle de la CENI, de la Bemalumalu, qu'on évite ces « je m'en fous » théisme, les sans-foutisme là de la CENI, de dire non, on va lever l'option pour aller, non, qu'on évite les bras de fer, qu'on évite les faits accomplis, que l'on puisse concilier toutes les propositions de telle sorte qu'on ait des élections transparentes, qu'on ait un processus électoral apaisé. Il faudrait nous éviter à des situations d'assister encore au coulement du sang dans ce pays où on a vu, il y a eu plusieurs morts tout simplement à cause des élections. Que cette fois-ci, que toutes les énergies soient canalisées, orientées dans le sens d'un processus électoral apaisé, d'un processus électoral sans trop de contestations. Et je crois que l'abbé Malumalu, qui est un homme des dieux, qui est un homme des églises, que la SENCO, qui sont des seigneurs, des hommes d'église, que tous les Kalamba et consorts qui sont dans la CENI puissent travailler ensemble avec les députés à qui les propositions seront adressées, puissent travailler de telle sorte que nous puissions avoir un processus électoral apaisé. Voilà mon souhait.
Je considère ceci comme votre conclusion. John Gomboa, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Que pouvons-nous faire pour harmoniser les divergents de vues au sujet des prochaines élections?
Il n'est pas tard de pouvoir s'asseoir autour d'une même table, de poser la question du processus électoral sans exclusif. Vaut mieux tard que jamais, et nous avons le temps de pouvoir écouter, d'intégrer les propos pertinents ou les propositions pertinentes afin de mener à terme un processus, ce processus électoral de manière pacifique, de manière utile et pacifiée. Parce que je crois que nous avons vécu des expériences électorales dans ces pays. Nous voyons plus ou moins comment ça commence et comment ça se termine. Nous avons des indices d'inquiétude quant à l'aboutissement de ce processus électoral. Il ne faudrait donc pas que la CENI puisse rester dans sa tour d'ivoire faisant fi des uns et des autres, parce que finalement la CENI elle n'est pas une entité autonome, elle ne fait qu'exécuter une mission qui lui a été attribuée dans un délai précis. Et il faut bien l'exécuter en tenant compte des avis de tout le monde.
Dona Moussema, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Ok, nous terminons cette émission avec vous. Que pouvons-nous faire pour harmoniser les divergences de vues entre les propositions de la CENI et les propositions de la SENCO pour les prochaines élections?
Merci. Je pense que, d'abord, la CENI a présenté la feuille de route du cycle électoral. La CENI n'a pas imposé, donc elle attend les amendements ou des éventuelles réactions de tous les partenaires impliqués dans le processus plus précisément au niveau donc de l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas tout de suite qu'on fasse des présomptions, qu'on impose des choses à la CENI, qu'on pense que non, la CENI n'est pas disposée à faire les élections. Au niveau de la CENCO, je pense aussi que la CENCO a joué son rôle d'interpellateur, un rôle d'alerte générale, de garde-fou carrément avec tout ce qu'elle a comme autorité morale sur le pays, sur l'ensemble de la population congolaise, étant donné qu'elle est essentiellement catholique. Je pense que c'est un message d'alerte étant donné que nous sommes à 2 ans des élections. Mais je pense que d'une façon globale, les uns et les autres peuvent jouer bien leur rôle. Il ne faut pas qu'on se jette du bal dans les camps. La MONUSCO, parce qu'on a parlé d'elle, elle peut par exemple s'impliquer comme elle l'avait fait en 2006, en 2011 aussi, parce que c'est un partenaire indéniable, la communauté internationale. Le gouvernement doit aussi faire preuve d'une forte volonté politique, disponibiliser par exemple un budget conséquent, parce que dans les choses qui ont été avancées, on soulève le fait qu'il n'y a pas assez d'argent pour organiser les élections. Et là, ça paraît comme un faux fuyant. Donc on peut contourner cette difficulté aux partis politiques, parce qu'on a craint aussi les fraudes, la corruption, qu'ils continuent de faire le travail de sensibilisation, d'éduquer les militants pour éviter ces éventuelles corruptions et fraudes. Mais aussi, l'Église, elle continue de sensibiliser, d'évangéliser, de prier et tout et tout. Bref, que tout le monde, au fait, s'approprie le processus et de s'impliquer pour que les choses puissent bien se passer. C'est possible.
C'est avec vous que nous mettons un terme à cette émission. Dieudonné Nyanga, c'était à la technique, Kelly Kouté à la réalisation. Samuel Kachak vous a présenté cette émission sous la supervision de Félix Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.